Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous, et nous partons en Allemagne où les églises gèrent des écoles, des crèches, des hôpitaux ou encore des maisons de retraite. Il faut savoir en effet qu'elles sont le deuxième employeur du pays avec 1,3 million de salariés. Sauf que les établissements religieux ne sont vraiment pas des employeurs comme les autres puisqu'ils disposent d'un code du travail à part, très avantageux. Mais les Allemands contestent de plus en plus ces privilèges et c'est le reportage de Déborah Berlioz.
En 2012, la berlinoise Vera Eggenberger répond à une offre d'emploi de la Diaconie, une organisation caritative protestante. Le poste consiste à rédiger un rapport sur la lutte contre le racisme en Allemagne. Problème, la Diaconie exige des candidats qu'ils soient chrétiens et Vera est athée. Elle n'a donc pas été invitée à l'entretien. Max Melzer n'y voit rien d'anormal. Il travaille pour le syndicat patronal de la Diaconie de Berlin.
Nous pouvons exiger que nos employés partagent nos idées ou tout du moins les acceptent. Et le plus souvent, cela se traduit par une appartenance à l'Église. Pendant des décennies, c'était monnaie courante et cela a été confirmé par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale.
De ce côté du Rhin, le droit à l'autodétermination des Églises est ancré dans la Constitution. Cela leur permet de prendre quelques libertés, comme exiger une certaine confession de leurs employés. Mais Vera Eggenberger a décidé de remettre le système en cause. Se sentant discriminée pour son athéisme, elle porte plainte contre la Diaconie. Son affaire remonte alors jusqu'à la Cour européenne de justice qui tranche en sa faveur en 2018. Pour Félix Hartmann, chercheur en droit du travail à l'Université libre de Berlin, c'est une petite révolution.
Depuis ce jugement, les églises doivent faire la différence entre les postes qui nécessitent vraiment que les employés soient de confession chrétienne et les autres. Entre un travail de jardinier ou de pasteur en gros, dans les faits, c'est ce qui se passait. Mais désormais, les églises ne sont plus les seules à décider pour quel poste elles peuvent exiger une appartenance religieuse. Cela peut désormais être vérifié par la justice laïque.
Dans le cas d'un jardinier ou d'un concierge, la confession semble en effet peu pertinente. Mais Max Melzer n'est pas de cet avis.
Tous ceux qui travaillent dans les organisations de l'Église font partie d'une communauté et participent à l'action de Dieu. On ne se voit pas comme un groupe de gens qui travaillent ensemble par hasard. Nous sommes une communauté au service de Dieu.
Les églises peuvent d'ailleurs exiger plus qu'une simple croyance. En 2014, par exemple, le chef d'une clinique gérée par l'Église catholique a été licencié pour s'être remarié après un divorce. Par ailleurs, ceux qui travaillent pour les églises n'ont pas le droit de grève. Encore une fois, Max Melzer trouve cela parfaitement justifiable.
Si on commence à faire la grève pour avoir de meilleurs salaires, ça veut dire que l'on place nos intérêts financiers avant le service à son prochain.
Une justification qui ne passe pas du tout auprès du syndicat des services Verdi. Mario Gembus y gère le département en charge des églises.
Ce statut spécial doit être aboli. Dans les associations caritatives des églises, qui gèrent les hôpitaux notamment, le travail est financé par les impôts et les cotisations sociales, comme pour n'importe quelle entreprise laïque. Or, nous payons tous ces impôts, peu importe notre confession. C'est normal que les églises touchent de l'argent pour ce travail, mais nous ne pouvons pas accepter qu'elles utilisent leur statut particulier pour en faire un avantage compétitif.
Le domaine des soins s'est largement privatisé depuis les années 90. Seul un tiers des hôpitaux et la moitié des maisons de retraite sont aujourd'hui publiques. Pour faire face à la compétition, les églises profiteraient donc parfois de leur statut afin de maintenir des bas salaires, selon Verdi. Toutefois, les églises ont déjà assoupli les obligations pour leurs salariés. Depuis 2016, par exemple, un remariage civil après un divorce n'entraîne plus un licenciement systématique au sein des institutions de l'Église catholique. Et la diaconie a facilité l'embauche de non-chrétiens. Pour Félix Hartmann, il s'agit avant tout d'une décision tactique.
Ce n'est plus possible de renvoyer l'image d'une église fermée qui exclut tous ceux qui ne suivent pas exactement sa doctrine, jusque dans leur vie privée. Une telle église aurait certainement la vie dure dans notre société plurielle et sécularisée.
Sans compter que le nombre de fidèles recule alors que le manque de main-d'œuvre augmente. Une tolérance accrue permet donc de trouver plus facilement du personnel qualifié. Le cas de Vera Eggenberger devrait encore faire évoluer les choses. Toutefois, ce droit du travail spécial n'est pas près de disparaître. Mario Gembus manque de soutien politique pour cela.
Le Parlement entier est, entre guillemets, noyauté par des membres des églises. C'est légitime, mais cela nous empêche de faire passer des lois pour attaquer ce statut spécial. Il ne faut pas oublier que les églises sont l'un des plus gros lobbies en Allemagne.
D'ailleurs, l'Église protestante et la diaconie pensent faire appel de la décision sur l'affaire Eggenberger. Le feuilleton juridique n'est donc pas terminé.
En Suède, l'église luthérienne n'est plus religion d'État depuis les années 2000, mais elle reste encore une institution. Les fidèles ont beau la délaisser, ils sont encore 6 millions sur 10 millions d'habitants à en être membres. L'église emploie plus de 24 500 personnes dans 13 évêchés et près de 1600 paroisses. Mais comme la quasi-totalité des secteurs en Suède, l'institution n'a pas échappé à la déferlante MeToo. Anne-Françoise Hiver.
Le blog a été mis en ligne fin novembre 2017, accompagné d'une tribune signée par 1139 salariés de l'Église de Suède. Même démarche que dans toutes les autres professions, 70 au total, qui ont dénoncé viols et agressions sexuelles à l'automne 2017 en Suède. Première à se mobiliser, les actrices, avec un texte publié dans le quotidien Svenska Dagbladet le 8 novembre. Pas de noms jetés en pâture, mais des témoignages anonymes alternant avec des coups de gueule contre ces chefs qui ne font rien et un mot-clé précédé d'un hashtag qui se propage sur les réseaux sociaux. Les femmes pasteurs ont choisi Vardeius, que la lumière soit faite. Leur tribune dénonce le viol, mais aussi les paroles sexistes et misogynes prononcées par un collègue ou un paroissien. Parmi les signataires, Antje Jäkelen, première femme, a été élue au poste d'archevêque en 2013, la plus haute figure de l'Église de Suède. Elle dit son indignation, mais reconnaît aussi sa responsabilité pour faire en sorte que les structures changent. Depuis plusieurs années déjà, l'Église a nommé un homme et une femme dans chaque évêché, chargés de servir de point de contact pour d'éventuelles victimes. Anne Sörman, pasteur dans la banlieue de Stockholm et porte-parole du mouvement Vardeius, estime que cela ne suffit pas. Si leur tribune a réveillé les esprits, dit-elle, elle n'a pour le moment eu que peu d'effets. La culture du silence persiste, en jeu souvent la figure d'autorité du pasteur dans une église qui ordonne les femmes depuis 1960, mais où leur légitimité peut encore être remise en cause.
Autre changement contesté depuis début janvier, l'Église ukrainienne s'est officiellement débarrassée de la tutelle religieuse russe. Décision historique et symbole supplémentaire du divorce entre les deux voisins. Plus de 70 paroisses ont décidé de rejoindre la nouvelle Église orthodoxe nationale. Un petit pas, mais le mouvement est enclenché. Sébastien Gobert s'est rendu à Hormatif, au sud de Kiev, à la rencontre de ses paroissiens. Reportage.
À Hormatif, les chants ne montent pas vers le plafond en voûte d'une église à coupole dorée. L'ancien bâtiment a été détruit par les communistes après la Seconde Guerre mondiale et les paroissiens se réunissent dans une ancienne école. La cérémonie ne paye pas de mine, mais l'enthousiasme est palpable. En cette période de fête, c'est l'une des premières messes en dehors du carcan de l'église russe. Le père Igor Gavriliouk.
Notre communauté a évolué avec le temps et nous avons convenu ensemble d'attendre la consécration de l'Église orthodoxe d'Ukraine pour la rejoindre.
Le 6 janvier, à Istanbul, le patriarche œcuménique Bartholomé a officialisé l'autocéphalie, c'est-à-dire l'indépendance de l'Église ukrainienne. L'initiative était très attendue à Kiev. Elle met fin à des siècles de rattachement du clergé ukrainien à l'Église russe et entérine une rupture de plus entre deux pays anciennement frères. À Hormatif, Mykola a toujours été paroissien de l'église russe. Mais celle-ci est depuis 2014 fortement soupçonnée de soutenir l'intervention militaire du Kremlin en Ukraine, à la fois dans ses prières et dans ses actes. Alors, à 76 ans, Mykola est sûr de son choix.
C'est la guerre avec la Russie à partir de 2014 qui nous a ouvert les yeux. On nous a trompés pendant 300 ans de domination de l'Église russe. Et c'est maintenant qu'on le comprend. À partir de là, notre paroisse s'est préparée à l'idée d'une séparation.
Dans le contexte d'un affrontement géopolitique et civilisationnel, le changement ne va pourtant pas forcément de soi pour tout le monde. Le prêtre Igor Gavriliouk.
Trois paroissiens ont refusé le changement. Ils n'ont rien dit, ils n'ont pas protesté. Ils ont juste rejoint la paroisse de l'église russe dans le village voisin. Nous allons prier pour eux et attendre qu'ils nous reviennent.
Selon l'église russe, l'indépendance de l'église ukrainienne est une violation de la loi canonique. Elle n'est pas encore reconnue par les autres églises orthodoxes à travers le monde. Moscou a rompu sa communion spirituelle avec Constantinople à cause de ce différend. Le risque étant que les tensions géopolitiques se répercutent dans la société ukrainienne. Une petite paroisse à l'ouest de la capitale Kiev a ainsi attiré l'attention mi-janvier à cause de heurts entre paroissiens de l'église russe et militants nationalistes ukrainiens qui voulaient affilier la paroisse à l'église ukrainienne par la force. La situation n'a pu s'apaiser que grâce à l'intervention de la police. Le président Petro Poroshenko s'est rendu sur place en personne.
Le Parlement vient d'adopter une loi pour encadrer le processus. Il faut s'assurer que le sang ne coule pas. C'est aux paroisses de décider par elles-mêmes. La politique ne peut pas s'ingérer dans ces affaires.
Le chef de l'État est pourtant très critiqué pour son implication dans les affaires religieuses. Il a fait de la création de l'Église indépendante ukrainienne un des points forts de sa campagne de réélection. Toute sa politique semble viser à conforter la nouvelle Église aux dépens de l'Église russe. Or, l'enjeu est de taille. Moscou dispose de plus de 11 000 paroisses en Ukraine et de plusieurs monastères importants. À Kiev, la Laure des Grottes est un centre de pèlerinage parmi les plus prestigieux de la chrétienté orthodoxe. L'évêque Victor est en charge des questions administratives. Il exprime sa peur que l'Église russe ne soit dépossédée de ses biens.
Pour l'instant, personne n'a tenté de remettre en cause notre droit à être ici. Mais j'espère que la situation ne dégénérera pas jusqu'à remettre cela en cause.
Dans le cas d'une escalade qui viserait à confisquer les biens de l'Église russe, on pourrait s'attendre à de sérieuses tensions.
La question religieuse est très politisée en ce moment, malgré la séparation de l'Église et de l'État, garantie par la Constitution. Cela nous pèse. C'est utile aux politiciens pour les élections. Je pense que cela se calmera après la tenue du scrutin. Et il le faut, car c'est une question difficile, douloureuse et dangereuse.
De fait, la question divise la population et le pays tremble en pensant à l'impact que la querelle religieuse pourrait avoir sur les élections. The best things in life are free, but you can give them to the birds and bees. I want money. C'est l'accusation qui a plané au-dessus du sommet de Davos il y a 8 jours. Dans son rapport sur les inégalités dans le monde, l'ONG Oxfam affirme, chiffre à l'appui, que les 26 personnes les plus riches du monde possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Intervenant ainsi sur fond de grands débats en France, cette publication vient renforcer la détermination des Gilets jaunes qui s'insurgent contre l'injustice du système fiscal français et qui réclament le rétablissement de l'impôt sur la fortune. L'occasion donc de faire le point sur la réalité des milliardaires en France et ailleurs en Europe. On retrouve Daniel Vigneron comme tous les jeudis. Bonjour Daniel.
Bonjour Catherine.
Alors d'abord, y a-t-il beaucoup d'ultra-riches en France ?
Si l'on considère les très grosses fortunes, celles des multimilliardaires, la France est très bien placée. En considérant les 10 Européens les plus riches, il y a 3 Français et 4 Allemands, mais ces derniers sont un peu moins riches. En revanche, les Français sont distancés en nombre de milliardaires, puisqu'ils sont 40 contre 43 Italiens, 51 Britanniques et surtout 123 Allemands. À peu de choses près, le constat est le même pour ceux dont le patrimoine est supérieur aux millions de dollars, des citoyens simplement très aisés donc. Ils sont près de 1,3 million en Allemagne et seulement 580 000 en France. Donc, on peut dire qu'il y a plus de riches outre-Rhin. Mais si l'on considère cette fois les revenus moyens du 1% des citoyens les plus aisés, on constate que les Français disposent de 83 000 euros de revenus annuels contre 75 000 pour les Allemands et les Britanniques et autour de 60 000 pour les Italiens ou les Suédois. C'est la conséquence d'un impôt sur le revenu plutôt léger en France pour les hauts revenus.
Et pourquoi cela ?
Cette situation n'est pas due au niveau des taux d'imposition, mais au seuil très élevé des revenus qui déclenche la mise en œuvre des taux supérieurs de 41 ou 45%. Concrètement, un célibataire français déclarant 150 000 euros de revenus annuels va payer un peu moins de 48 000 euros d'impôt sur le revenu. C'est un peu plus qu'un Britannique, mais moins qu'un Allemand, 53 000 euros, qu'un Italien ou un Espagnol, environ 57 000 euros, et surtout beaucoup moins qu'un Belge ou qu'un Néerlandais, 70 000 euros.
Les hauts revenus sont donc plutôt épargnés en France.
Oui et non. Premièrement, comme on le sait bien, les Français acquittent désormais un impôt sur la fortune immobilière qui remplace l'impôt de solidarité sur la fortune après exemption des revenus du capital mobilier. Cette IFI ne devrait rapporter à l'État qu'un milliard d'euros contre 4 milliards pour l'ancienne ISF. D'où la grogne des gilets jaunes. Mais l'impôt sur le patrimoine a complètement disparu dans 8 pays européens et à part la France, il n'existe plus aux Pays-Bas et en Espagne.
Et le fardeau fiscal, Daniel, est-il aussi lourd en matière de revenus des actions ou des obligations ?
La situation a changé en France. Jusqu'à la réforme du président Macron, les intérêts sur les obligations et les plus-values d'une cession, dans le cas de vente d'une entreprise par exemple, pouvaient être taxés jusqu'à 60%, même si le dispositif avait bénéficié d'abattements importants concernant les plus-values. Quant aux revenus des actions, c'est-à-dire les dividendes, ils étaient taxés à 38%. Désormais, intérêts, dividendes et plus-values sont uniformément imposés à 30% en vertu de la flat tax entrée en vigueur en 2018. Ce qui rapproche la fiscalité française de celle pratiquée dans les pays voisins où ses revenus mobiliers sont taxés de 24 à 30%. Mais il faut noter que les plus-values mobilières ne sont pas imposées en Belgique et aux Pays-Bas. À l'inverse, les dividendes sont désormais moins taxés en France qu'au Royaume-Uni et au Danemark.
Pour finir, les droits de succession.
Pour une succession en ligne directe d'environ 1 million d'euros, la ponction fiscale est plutôt modérée en France, 10% environ, et n'a rien à voir par exemple avec ce que paient les Belges. Cependant, à ce niveau d'héritage, les Français bénéficient d'abattements beaucoup plus réduits que leurs voisins. 100 000 euros contre 400 000 euros en Allemagne et même 1 million en Italie. Et puis, du fait de la forte progressivité des tranches, les droits deviennent très lourds en France pour les successions de plusieurs millions.
En conclusion, Daniel, les hauts revenus sont-ils si imposés en France ?
On peut le dire dans le domaine de l'immobilier, notamment à cause de l'impôt sur le patrimoine. C'est le cas aussi des grosses successions. Mais la France taxe désormais les revenus du capital à peu près au même niveau que ses voisins. Et l'impôt sur le revenu est plus léger qu'ailleurs. C'est sans doute dans ce domaine que des avancées fiscales visant une réduction des inégalités pourraient éventuellement être proposées par le gouvernement.
Daniel Vigneron du site myeurope.info. À bientôt, Daniel.
À bientôt, Catherine.
Et quand on évoque les impôts loin du feuilleton du Brexit, les sujets de Sa Majesté sont occupés ce jeudi à remplir leurs devoirs et leurs feuilles d'impôts pour la période 2017-2018. Pour 2016, il faut savoir que Jeremy Corbyn, le chef des travaillistes, avait raté cette date butoir. On ne connaît pas l'excuse qu'il a donnée, mais le HMRC, le fisc britannique, en a compilé certaines surréalistes, voire totalement loufoques, Marie Billon.
Il y a ceux qui ont peur des tâches administratives et ceux qui ont peur de leur belle-mère. Et puis il y a ceux qui combinent les deux, comme ce contribuable qui, pour justifier du retard de sa feuille d'imposition, a dit au fisc britannique « Ma belle-mère est une sorcière et m'a jeté un sort ». Ça n'est pas la première année que des pouvoirs surnaturels priveraient le royaume d'impôts justement collectés. En 2014, un homme avait prétendu qu'il ne pouvait pas remplir sa fiche, car sa femme, disait-il, voyait des extraterrestres depuis quelque temps et ne le laissait plus entrer dans la maison. Certaines excuses cette année sont plus terre à terre. Je suis trop petit pour atteindre la boîte aux lettres ou encore mon chauffe-eau est en panne, mes doigts sont trop gelés pour écrire. D'autres nous tiraient presque une petite larme. J'ai été trop occupée, ma première femme de chambre est partie, la deuxième était une voleuse, la troisième a mis beaucoup de temps à être opérationnelle. C'est vraiment pas de chance, hein. Cette année, les lettres accusent donc les belles-mères, un classique, mais en 2014, les animaux étaient à la fête, enfin si on peut dire. Un contribuable en deuil s'est fendu d'un « mon poisson rouge est mort ». Et puis il y avait aussi ce fermier en arrêt de travail parce qu'il était entré en collision avec une vache. Les facétieux services des impôts britanniques ont aussi publié une liste des frais professionnels peu professionnels, comme des dessous en laine par exemple, ou bien encore un abonnement à un site de musique en ligne pour écouter pendant le travail et stimuler la productivité, évidemment.
Françoise Grelot était à la réalisation et à la mise en onde, bien sûr. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. À demain.